J'ai pris le microphone, ensuite une voix, j'ai pris le maquis. Je me sentais un peu compressé dans le paquet de plaquis. Donc j'ai pris le treikaki comme les tamous, les paquis. Et j'ai vu la vie des hommes, oui la vie des hommes est acquis. Pause, j'ai fait l'armée dans des chars à voile. Y avait bombe et des femmes à poil, faute tout pas faute faux. Garder tête haute faux, vivre avant la dame à la faux.
Exa.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Et ce matin, c'est donc Maud, la gagnante belge de Koh-Lanta en 2019, qui mérite d'être dans le journal. Racontera-t-elle cette passion dévorante pour l'alpinisme, elle qui gravit les plus grands sommets? Son mari et ses enfants qui ont finalisé l'inscription à Koh-Lanta sont-ils aussi grimpeurs qu'elle? Et que va-t-elle faire à Paris cette semaine? Même que si on la croise pas aujourd'hui, on la croisera jamais parce qu'elle est tout le temps à l'étranger. Eh bien, vous le saurez ce matin en écoutant « Elle mériterait d'être dans le journal ». Donc ce n'est pas votre nom de famille, de Koh-Lanta. Bonjour Maud.
Ah pourtant j'aimerais bien, là avoir la petite particule, j'ai déjà Maud avec un petit D, Koh-Lanta ça le fait.
Ah ouais, ça vous colle à la peau évidemment depuis le départ. On est allé faire tout à l'heure devant RTL une photo sur un petit poteau de signalisation. Vous avez gardé un équilibre de dingue, vous aviez refait une épreuve des poteaux depuis 2019 ou jamais?
Ah l'épreuve des poteaux, je la fais parfois, par exemple, quand je vais dans un magasin de sport pour alpinisme, on m'a demandé de monter sur un présentoir qui était comme un poteau avec quelques bois, morceaux de bois,
blague,
oui,
ouais.
Qui me permettaient de monter et j'étais à 2,50 m de haut.
Damned, je pensais être original. Alison, notre chargée de production, on est les 100e à lui faire la blague.
Ouais.
Oui, mais en général, on ne pose pas.
Ouais, vous irez voir les photos sur les réseaux, c'est un peu bousculé, mais elle a de l'équilibre. Alors, on va essayer de faire connaissance avec vous ce matin, mais pas en version Koh-Lanta, en version alpinisme. Parce que c'est ça, votre vraie vie, vous êtes une passionnée, vous avez monté les plus hauts sommets du monde. Mais d'abord, faut passer l'épreuve de l'intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour, madame. Ouais, il faut être poli.
Bonjour Maud. Ah. Est-ce que c'est vrai qu'avant de faire Koh-Lanta en 2019, vous vous étiez inscrit bien avant à l'émission avec votre mari?
Ah là, l'intelligence artificielle connaît tout.
L'intelligence artificielle, oui.
Effectivement, mon mari et moi, plus ou moins 7 ans avant que je ne participe à Koh-Lanta, nous étions inscrits en pensant, bah, faudrait que les Belges montrent quand même ce qu'ils valent.
Et vous aviez vraiment l'espoir d'y aller à deux?
Ah ben non, justement, c'était le pari. Est-ce que c'est mon mari qui allait être pris ou moi? Et finalement, aucun des deux n'a été pris, on a été très vexés. Mais à mon avis, ils ont dû perdre notre lettre.
Ouais, bah vous avez eu votre revanche après, puisque vous avez été sélectionné.
Payé beaucoup.
On peut nommer monsieur? On peut nommer ou il vit dans l'ombre secrète?
Alors, soit je dis Mahume et personne ne reconnaîtra, ça peut être pas mal. Sinon, il s'appelle Jean-Luc.
Ok, Mahume, donc c'est l'équivalent de petit lapin de mon chéri, à mon avis. Mais
à peu près.
Sinon, je note Jean-Luc, parfait.
Votre passion pour l'alpinisme est une passion dévorante, mais quel est votre niveau de ski? Piste verte, piste noire ou vous restez dans un chalet à manger de la raclette?
Ce qui m'étonnerait vu votre ligne, hein, mais...
Ah, mais j'hésiterais entre la piste noire et manger de la raclette. En général, c'est le soir que je mange la raclette et la piste noire, c'est vrai qu'en plus, si c'est la poudreuse, là je craque.
Ouais, vous êtes une super bonne skieuse, piste noire quand c'est vraiment en vertical, c'est votre truc ça.
Ah, ce que je préfère encore, maintenant je l'ai plus fait depuis un petit temps, mais c'est effectivement avoir la radio, de déclencher l'avalanche et partir. Mais là j'avais 18 ans. C'était magnifique. Ouais, j'adorais.
Ça?
Ah oui, j'adorais. Ça c'était extraordinaire. Ah ouais. Mais j'ai eu la chance d'étudier l'éducation physique et on partait en deuxième et en troisième année. Et donc là, on a vraiment eu l'occasion de faire des choses extraordinaires.
Ah ouais, génial. Je regarde votre tête, je vois pas de traces de lunettes parce que tous ceux dans le couloir d'RTL qui ont été au ski, ils ont la trace de lunettes là depuis 2 jours. Ça repère ceux qui sont partis, ceux qui sont pas partis. Bref.
Vous vous êtes blessé au genou. Ça va la mobilité?
Ah bon? Bilan médical.
Ah mais ça c'est vache hein, de dire qu'ils étaient partis justement et moi je ne peux pas partir cette année étant donné que j'ai peut-être fait un peu trop de folie la dernière fois. Ouais. J'étais effectivement en piste noire avec 60 cm de poudreuse et là j'ai bien attaqué. Mais je pense que mon jeune âge n'a pas aimé que j'attaque autant, que j'aurais peut-être dû un peu m'échauffer. Mais bon voilà, pas de regret, la piste était magnifique. Mais j'ai dû me faire opérer des ligaments croisés.
Ah ouais, mais vous êtes tombé, vous avez eu quoi, un petit claquage en cours de route ou...
Mais je ne m'attendais pas à l'avoir, j'ai passé une bosse, mais la neige a été un peu dure à cet endroit-là. J'ai entendu un claque. J'ai continué quand même à skier. Ça fait un peu mal. J'ai été chez le médecin qui m'a dit « Oh, il n'y a rien du tout, on peut continuer ». Le lendemain, j'ai reskié, mais je suis, au moment où je freine, que je fais un dérapage, je suis passé au-dessus de mes skis et j'ai plongé dans un mini ravin. Heureusement, il y a des arbres, donc on a pu me tenir.
Ah ouais?
Oui, et les amis ont adoré.
Ah ouais, mais vous faites Koh Lanta, mais dans la vraie vie, quoi, avec des vrais trucs. Bon, je rassure ceux qui écoutent la radio, qui regardent la télé ce matin. A priori, elle va bien. Je l'ai regardé marcher dans le couloir. A priori, tout va bien. Bon, question.
Est-ce que vous êtes une star de télé-réalité ou vous avez un vrai travail dans la vie?
Une question à des gens qui font de la télé. Ça.
Oui,
vous avez un vrai travail?
J'ai un vrai travail. La preuve, c'est que je suis déguisée aujourd'hui pour mon travail, puisqu'après l'interview, je repartirai travailler.
Ah, vous êtes en chic, madame. Et c'est quoi votre travail?
Je me déguise tous les jours et je rencontre les médecins. Je suis représentante en imagerie médicale.
Ah oui, en imagerie médicale. Ok, donc on en parlera tout à l'heure de votre vraie vie, de votre vrai travail.
À Koh Lanta, vous aviez perdu combien de kilos?
13 kilos.
13 kilos?
Oui, ben. Je ne pesais plus que 51 kilos.
Bon, c'est une question un peu délicieusement non courtoise, mais vous avez tout repris, vous avez gardé le moins 13?
Alors, j'ai tout repris, mais de nouveau, il faut transformer ça en muscle. Et là, effectivement, c'est une triche, mais à partir de 50 ans, on reprend moins facilement du muscle. Mais Je m'y suis attelée.
Elle y travaille parce qu'on parlera de votre parcours sportif. Question la dernière.
Pouvez-vous me faire un devis? Escaler le Mont Blanc à 4, c'est-à-dire vous, Benjamin, Alison et Charles le réalisateur. Ça coûterait combien?
Le devis. Sauf que je le ferai pas, moi, escalader le Mont Blanc, parce que je suis pas alpiniste, mais... Donc faites-moi un petit chiffre.
Ah, le devis pour escalader le Mont Blanc, pour faire l'ascension du Mont Blanc, là, ce n'est pas encore trop cher. Je sais maintenant...
Alors, donne-moi un chiffre, on est 4, hein. Donc Benjamin, Alison, Charles qui réalise, et vous?
Mais par personne, je pense qu'on pourrait arriver à 1000 euros maximum.
1000 euros, pas plus?
Non, justement. Mais c'est ce que je dis, maintenant, l'accès au Mont Blanc est protégé. Donc, comme moi, j'ai gravi le Mont Blanc il y a 6 ans, sans doute que ça a augmenté. Là, le Mont Blanc ne faisant pas partie des Seven Summits, pardon pour les Français, c'est l'Elbrouz, ce n'est pas un des sommets mythiques. Et donc, l'accès au parc est moins cher.
Ah bah ça va, je m'attendais au coup de fusil, les nouvelles sont bonnes. Maud de Koh Lanta est là, on peut peut-être se permettre, si on économise un peu, un petit Mont Blanc, et si vous voulez discuter avec elle, c'est au 33-23, 25 centimes le message.
Il mériterait d'être dans le journal.
Et franchement, à ce prix-là, c'est moi qui paye la corde et le petit crampon et la tente Quetcha si on veut se faire une ascension. Voici Phil Collins. Bon, c'est vrai que Monsieur Collins confirme complètement la page de Koh-Lanta et des épreuves de poteau à 5 centimes qu'on fait devant les studios RTL TVI. Merci encore d'avoir enlevé vos chaussures et vos chaussettes. Je suis pas sûr que tous les invités l'auraient fait.
Mais en fait, j'ai enlevé les chaussures et les chaussettes pour qu'on voit bien l'état de mes chaussures et qu'on se dise, celle-là, il faut la sponsoriser pour cette future ascension.
Ouais, on rappelle que si ça s'appelle Bel RTL, et pas argent, et pas pouvoir aider vous, même si que 1000 euros Mont Blanc, pas pouvoir aider.
Oui, mais pas grave, je vendrai le micro, je partirai avec tout à l'heure.
Alors, dans un instant, on va faire votre culture de l'alpinisme. Donc, le rêve absolu de cette madame, c'est de réaliser l'ascension des Seven Summits, les 7 sommets les plus grands du monde. Sur les 7, enfin, pas les plus grands, mais
les plus hauts par continent. Ouais.
Et vous en avez déjà fait combien sur les 7?
J'en ai fait 4. Donc, j'ai fait le sommet du continent de l'Afrique, le Kilimanjaro. J'ai fait gravi le sommet de l'Europe, Elbrouz, Amérique du Sud, Aconcagua et Asie, l'Everest.
Mais tout ça a commencé donc par le Mont Blanc. Et vous allez nous raconter comment, juste avant Koh-Lanta, vous avez commencé l'alpinisme.
Il mériterait d'être dans le journal. Reviens dans quelques instants sur Bel RTL.
When you're tired of being so lonely, every day you can write your story. Standing in the sun or the driving rain. No flowery past needs to glory. Every day you spend, don't be sorry. You know, life should always be a game. Aim for the top now. Follow me, dream on and keep that honesty. See how you can get there now. New state of mind, be yourself, don't be wiser. Life is short and no one knows the other side. Get your head out of water, of water. New state of mind, be yourself and rise up. Life is short. Back and store your fears on the stack. Leave them so you'll never be afraid again. Aim for the top now. Follow me, dream on and keep that honesty. See how you can get there now. New state of mind, be yourself, don't be wiser. Life is short. Life is short and I know, short and I know, short and I know, we don't have much time. Life is short and I know, short and I know, short and I know, we don't have much time. Life is short and I know, short and I know, short and I know. You stay in mind, be yourself, don't be wiser. Life is short and no one knows the other side. Get your head out.
D'être dans le journal.
Mais d'où lui vient cette passion de l'alpinisme? Le grand public a donc découvert Maud de Koh-Lanta en 2019, quand vous devenez la première Belge femme quinquagénaire à gagner. Mais avant ça, vous aviez une vie. Alors il faut rétro-pédaler, parce qu'en fait, on ne vous savait pas à ce point-là accro. On est en 2017, vous allez faire votre première ascension. Donc le Mont Blanc ne fait pas partie des Seven Summits, des 7 sommets, mais c'est un peu votre test. 2017, à ce moment-là, quelle est votre expérience de l'alpinisme ou de l'escalade en salle, ou de l'escalade à Marche-les-Dames? C'est quoi votre expérience à ce moment-là?
L'expérience, elle est un peu spécial. C'est vrai que l'ascension du Mont Blanc va être vraiment la révélation en alpinisme. Et là, j'ai la chance d'avoir un ami qui me dit, bah, moi, je vais tenter l'ascension du Mont Blanc. Là, je dis, oh, est-ce que je peux venir? Donc voilà.
Mais vous en aviez jamais fait avant?
Je n'en avais jamais fait. Bon, toute petite parenthèse, quand j'étais chez les guides, Mouvement de Jeunesse, j'avais une amie qui était française, dont les parents étaient savoyards. Et eux m'ont offert de partir. Enfin bon, ils m'avaient invité et m'ont offert de partir et notamment d'être initié à l'ascension, enfin de la pyramide, du sommet de l'aiguille de l'Hem qu'on appelle, qui se trouve près du Mont Blanc. Et puis j'ai pu faire le tour du Mont Blanc. J'adorais.
C'était un petit galop d'essai, quoi.
Voilà. Et j'ai appris à vivre dans la montagne plutôt que sur la montagne. C'est pour ça que je tiens toujours à dire. Ce petit coup de cœur, c'était ça, mais la révélation, ça a été le Mont Blanc.
Ah, ben donc on est en 2017, faites-moi le truc, vous et votre mari, parce que votre mari part avec, Jean-Luc, là, Mahoum.
Oui, Mahoum.
Il vient avec. Quel est votre camp de base? Donc juste avant l'ascension, vous êtes où? Ça démarre où cette aventure-là, Mont Blanc?
Ah ben on est à Chamonix.
Ouais.
Donc on est à Chamonix, on part, donc le camp de base là, on part un petit peu plus loin. Il faut savoir qu'on est parti début mai, donc la première étape qu'on fait en train à crémaillère, nous l'avons faite en grimpant déjà, en ascension. Et il faut savoir que cette étape est un peu plus désagréable, puisque plutôt que de prendre le train, on va passer par la moraine. La moraine, c'est un endroit où, précédemment, il y avait un glacier. Donc ce sont des pierres avec beaucoup d'éboulements, etc. Mmh. Et mon mari a eu l'occasion de découvrir la montagne avec cette magnifique ascension. Et donc, après 6 heures d'alpinisme... il a été blessé.
Wow.
Donc il a fallu porter son sac parce qu'il était complètement tordu. Donc j'ai pris son sac avec les deux sacs. On est monté quand même jusqu'au refuge parce qu'il n'y a pas le choix à ce moment-là.
C'est un scénario de film en fait.
Mais j'aime
c'est
les films. Truc. J'aime les films. Ah, oui, non, faut même avoir quelque chose à raconter quand on revient d'une ascension. Donc je paye toujours quelqu'un pour faire une bêtise. Ah, ouais. Et là c'était mon mari.
Si vous voulez mon avis, vous devriez le romancer encore plus en disant j'ai pris mon mari sur le dos et je l'ai monté au refuge.
J'y venais. Mais il y avait quand même mieux puisque une fois au refuge, il y avait quand même la tempête, ça soufflait, etc. Mais mon mari était terriblement blessé, et il a dû descendre en hélicoptère. Héliporté après une première ascension, c'est quand même pas mal.
C'est une première expérience. Et vous continuez le chemin, et vous arrivez donc au sommet, 4810 mètres, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Quand vous êtes au sommet, vous avez quoi, un sentiment de fierté? Vous êtes juste dans l'adrénaline, c'est quoi la première sensation?
Il y en a deux. C'est magnifique. On a un tour à 360 degrés, c'est extraordinaire, donc c'est vraiment beau. L'envie de faire, de fêter ça. Donc, je fais mon petit saut au sommet de chaque sommet. Je fais un saut.
Ah, c'est vrai? Mais vous faites quoi?
Un petit saut qui dit, voilà, je suis arrivé au sommet. Ça fait une belle photo. C'est juste pour la presse.
En écartant les jambes, quoi. Ouais, genre saut de l'ange, écarté de jambes.
Bien mieux, mais ça, y a qu'à regarder. Non, je le ferai pas. Et alors, c'est tout bête, mais terriblement l'envie de partir en parapente.
Ah ouais.
Et de voler au-dessus. Mais c'est extraordinaire de descendre aussi à pied. Et il faut savoir que atteindre le sommet, c'est une chose, mais pouvoir en revenir, c'est le plus difficile.
Ah ouais, c'est ça. Alors c'est là que c'est le pied dedans. Donc on est en 2017. L'année d'après, vous allez faire le Concagua. Donc Concagua, il faut se retrouver sur la carte. On est en Argentine. C'est un des sommets d'Amérique du Sud. Donc c'est quelques mois après. Et à ce moment-là, quand vous entamez donc le premier de vos Seven Summits, la Concagua, vous avez quel âge?
J'ai presque 50 ans.
C'est-à-dire que c'est là que le truc est dingue. C'est pas un truc que vous démarrez à 20 ans.
Non, mais c'est un rêve. Donc, en fait, quand j'ai tenté et que j'ai réussi l'ascension du Mont Blanc, j'ai eu la chance d'avoir Bernard Muller, qui était mon guide et qui était marié avec Laurence de la Ferrière. Et il faut savoir que ce couple était le couple le plus haut du monde.
Pionniers des expéditions françaises en montagne.
Voilà, ouais. Puisqu'il avait déjà 70 ou 75 ans quand il a été mon guide et il m'a parlé des Seven Summits. Et c'est lui qui, moi, j'avais les yeux qui brillaient quand je l'écoutais. Je lui dis, mais écoute, est-ce que ce serait possible éventuellement pour moi de tenter l'ascension? C'est vrai que ça s'était passé très très bien au Mont Blanc. C'est vrai que le bon Dieu m'a peut-être donné des facilités pour ça, mais en tout cas, il a été bien gentil. Et lui m'a dit, Maud, si tu veux voir si tu es capable de faire cette ascension, l'ascension des Seven Summits, commence par la Concagua parce que le différentiel d'altitude est le plus agressif et on verra si tu tiens. Et en même temps, au niveau physique, on monte très vite.
Ah ouais, je vous raconte déjà la fin du film, c'est qu'elle est arrivée au sommet de la Concagua, mais sans porter son mari sur le dos comme l'autre fois. Enfin, je le romance un peu pour vous. Voici Christophe Willem.
Un peu révolté, à quoi ça sert? Personne pour écouter. Allô, la terre, allô, allô, maman, comme j'ai beau, je vis dans un monde, maman, où tout est faux. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Faut m'expliquer, je veux plus attendre. Moi, je veux m'inventer, réinventer ma vie comme un ado. Et pourquoi pas maman me trouve?
Moi, je dis oui, vous êtes la madame de Koh Lanta, 2019, on est d'accord.
J'aime le petit 2.
Ah oui, 2. Comment voulez-vous qu'on n'en reparle pas une seconde quand même? Les aventuriers, gna gna gna. Enfin, non, ça c'est le père Foy. Vous avez encore des contacts avec Denis Brogniart?
Avec Denis, moins souvent, parfois j'en ai, et c'est un grand plaisir, mais la personne avec le plus de contacts, c'est avec mon binôme, Cyril.
Ah, et Cyril, Alors, on va quand même se faire une petite interview Koh Lanta, comme ça on règle le truc. C'est fait. Bon, alors, ouais. Du tac au tac, vous me répondez. Quand on tourne Koh Lanta, il y a combien de caméramans autour de vous?
C'est un vrai studio, vous avez environ 150. Enfin, ça dépend. Quand ce sont les épreuves, on a une équipe de 150 personnes.
Ouais.
Quand on est sur l'île, on a deux caméramans.
Deux caméramans. Quand vous êtes sur votre île, à quelle distance est le premier hôtel? Pour voir si vous êtes vraiment isolé, du tac au tac.
À 5 mètres.
Ouais?
Non, je ne sais absolument pas si c'est sur une autre île.
Attendez, parce que là, je voyais déjà tous les médias français faire des grands titres. Hein.
Oui, non, j'ai promis que je garderai les secrets des 5 mètres, de qu'on mange tous les jours, des bons lits qu'on a, etc.
Ok, mais donc il n'y a pas, ça veut dire
non,
qu'il
n'y a pas.
Non,
il n'y a pas du tout, il n'y a pas de triche.
Du tac au tac, quand vous faites Koh Lanta, vous signez, j'imagine, un contrat de confidentialité, on ne révèle rien. Pendant combien de temps vous devez vous taire?
Ah, là, jusqu'à ce que l'émission soit passée, tout simplement.
Ah, et après vous pouvez parler, ok. Sur Koh Lanta, quand on est une madame, est-ce qu'on reçoit des serviettes hygiéniques?
Quand on est une madame, tout ce qui est pilule, pour toute personne qui doit être de toute façon suivie par un traitement, elles auront évidemment leur traitement médicamenteux. Pas de problème. Et pour répondre à la question, les femmes auront des serviettes hygiéniques ou tampons ou autres. Voilà.
Quand on fait Koh Lanta, qu'on soit éliminé ou gagnant, peu importe, et qu'on revient en France, on voyage en business class ou ils vous mettent en classe éco dans l'avion?
Je pense qu'on est en classe éco, si je me souviens bien, mais c'était un bel avion. Donc,
qui est Bandora, voilà. Là, sur TF1. Dernier petit truc. Quand on est candidat à Koh Lanta, est-ce qu'on peut discuter le coup avec Denis Brogniart après les épreuves?
C'est-à-dire
dire
si c'était bien ou...
On s'arrête, le tournage est fini, fumes ta clope, il y en a un autre qui prend un biscuit.
Si on avait une clope, on la mangerait sur l'île. ouais. Discuter le coup, non, on est quand même assez loin de Denis, parce que ça va être l'animateur qui va vraiment garder une distance.
Ouais.
C'est pas notre copain. Avec le temps et surtout après Koh Lanta, ben oui, on discute de tout.
Et je me demande quand même si on va pas faire 2-3 questions qui fâchent après la pub. Un mot de Koh Lanta.
Il mériterait d'être dans le journal avec Otto First Jean Blue.
En Roumanie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Du Darfour brûlant à Grozny, le décharge en égout. Des gamins vendus de Bali montent une fois. De Gaza, d'Irak, d'Éthiopie, des enfants soldats de partout. De Kaboul, de celle qu'on oublie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'un possible à finir. Donne-moi mieux qu'un jour de plus à tenir. Quelque chose à remplir qui me fera vieillir. Un avenir. Un avenir. Une envie, donne-moi une vie,
de ma vie.
Donne-moi une vie.
Pas le bonheur, juste une vie.
Quelque chose à perdre aussi.
Quelque chose à perdre aussi.
Donne-moi une vie.
Il mériterait d'être dans le journal.
Mais est-ce que Maud répond aux questions qui fâchent? Eh ben quoi, Koh-Lanta, dans toutes les épreuves All-Star et tout le bazar, ils vous ont jamais rappelé? On vous a pas revu après?
Mais
qu'est-ce qu'ils font à TF1?
Je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais quelque
en,
part...
En vrai, ça vous a fâché ou ça vous...
Mais pas du tout, j'avais été sélectionnée pour les 20 ans, pour les légendes, et j'ai appris 4 jours, donc mon sac était prêt, et 4 jours avant le départ, on m'a dit, bah, finalement, tu ne partiras pas. Et je vais avouer que je suis... très très contente parce que au vu du Koh-Lanta des légendes, ce n'était pas mes valeurs.
Ah, c'est donc, celui où ils ont un peu triché et mangé là.
Un petit peu.
Ouais. J'anticipe les gars que vous connaissez, les trois qui ont mangé un peu triché.
Je les connais tous. Voilà, mais je trouve que j'ai envie de.
Théoura, Claude, Laurent. Il fallait que je retombe sur les prénoms.
J'ai envie de dire Koh-Lanta, c'est pas ça.
Ouais. Ça, c'est votre tête, no comment. Ça, je vois dans vos yeux, c'est votre tête, no comment. Voilà. Alors, autre question qui fâche. C'est les pépettes, l'argent. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'à 4, on pouvait faire le Mont Blanc à 1000 euros par personne. Non, des ascensions aussi impressionnantes que l'Aquacongua et d'autres Everest. C'est un autre budget, quand même. En vrai, le budget de ça, c'est quoi?
Mais c'est extrêmement cher. Il faut savoir que pour gravir l'Everest, notamment, c'était 60 000 euros. Heureusement que mes enfants m'ont inscrite à Koh-Lanta. Alors, je précise que moi, je n'ai pas pris les 60 000 euros. J'ai préféré travailler avec les gens sur place, avec les Népalais directement, et ça m'a coûté 25 000 euros.
Bah, c'est quand même un budget. Mais donc tout
c'est
ça,
un énorme budget.
Hors sponsor, vous devez un peu le financer sur votre vie propre et sur votre travail, quoi.
Voilà, c'est un peu dans ma philosophie. J'ai du mal à demander un sponsoring, mais c'est vrai que ça coûte très très cher. Et ce qui explique aussi que les trois sommets à venir vont sans doute prendre du temps, mais peut-être qu'à 80 ans, je ferai l'ascension du Vinson qui coûte 70 000 euros.
Et je vous souhaite, je touche du bois, je touche du bois. Alors quand on regarde le parcours de Maud, il y a toujours un gars qui est pas très très loin, c'est pas Jean-Luc le mari, c'est son copain de Koh-Lanta. Quand vous étiez à Koh-Lanta, vous nouez une amitié incroyable avec un certain Cyril, que vous avez continué à fréquenter. Est-ce que Cyril a gravi l'Everest avec vous?
J'aurais aimé qu'il aille jusqu'au sommet, c'était la première ascension, il a déjà été à 5300 mètres jusqu'au camp de base de l'Everest, et c'est un exploit.
Alors on appelle celui qui a déjà été très loin. Donc la maestro, c'est Maud, elle va au sommet. Cyril, il est un peu derrière et il s'arrête. Bonjour Cyril, Juan est bienvenue sur Bel RTL, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Je vous présente
pas. Bonjour Cyril,
copine.
Je pensais qu'on se voyait après-demain.
Eh bien non, un peu plus tôt.
Alors, avant de reparler de l'Everest, les petits cachotiers, parce que c'est dur de la voir Maud tellement elle a un agenda de ministre, vous partez à Paris cette semaine pour évoquer un fameux projet. Cyril, je vous laisse balancer le truc. C'est quoi le prochain voyage avec votre copine Maud?
Alors oui, c'est vrai que donc vous parliez de l'Everest et on a fait Koh-Lanta et là on part en Papouasie encadrer un groupe d'aventuriers ou de semi-aventuriers un peu comme nous qui savons pas trop ce qu'on va faire, mais en tout cas on va pendant 18 jours vivre avec les Korwai en plein cœur de la jungle et donc avec Maud on fait ça et c'est une petite folie qu'on se permet. Mais donc
c'est pas un truc d'émission de télé, c'est un truc d'une organisation pour vous, pour le plaisir, pour le gag, quoi.
Exactement, c'est pour c'est Azimut, c'est une agence de voyage qui nous a proposé ça, avec qui on a déjà travaillé et on a commencé à créer le concept ensemble avec Maud et avec Azimut, et là du coup on lance le projet, on y va.
Eh ben alors présentez-moi vos copains, Maud, vous allez voir ce qu'on appelle le peuple des arbres. Qui sont ces gens? Peuple des arbres, c'est qui?
Eh bien ce sont des papous, donc c'est une tribu papou, ce sont plusieurs familles qui vivent ensemble, et donc comme le terme l'indique, peuple des arbres, si vous aviez une photo représentée, vous voyez des maisons qui sont construites à 10 mètres, 14 mètres du sol.
Ah, ça doit être incroyable, ça.
C'est extraordinaire.
Ouais. Vous savez, sur AB Explore, je peux pas le dire parce qu'on est RTL, mais AB Explore, c'est sur un autre groupe, il y a une émission qui s'appelle Naked and Afraid. Ouais. Ils vivent dans la jungle tout nu. C'est ça que vous allez faire?
J'espère qu'on ne sera pas tous tout nus.
Non, c'est pas parce que
Cyril, l'étui peignien tira à merveille.
Ah, mais voyez.
J'ai hâte, je vais me le construire moi-même.
Je sais pas si on trouve ça sur Amazon ou pas, j'ai pas encore regardé. Mais donc ça, c'est un truc que vous allez vous faire ensemble et vous avez encore l'habitude de vous fréquenter. Vous vous êtes vus dans plein de moments d'expédition, de trucs. Maud, racontez-nous rapidos comment vous êtes fait peur lors de l'ascension de l'Everest. Vous avez été au bout, bien sûr, mais comment vous faites peur lors de l'ascension de l'Everest? 8848 mètres.
Comment je me fais peur? Ben, l'histoire débute surtout parce que mon guide va être malade et que je vais partir avec le porteur, qui est un jeune porteur qui n'a jamais fait le guide. Donc c'est le petit côté un peu spécial peut-être d'avoir choisi de partir par des guides népalais. Et quand je serai au camp de base 3, qui est le camp qui va être le dernier moment où je vais faire une ascension normale, on est à 7500 mètres, je me lève à 6 heures du matin, je vais arriver vers 2h, 3h de l'après-midi au camp 4, qui a 8000 mètres. Ouais. À ce moment-là, on dort 4 heures et puis on part pour l'ascension finale vers 7 heures. On marche toute la nuit, on arrive vers 8 heures, 9 heures du matin au sommet et on redescend jusqu'au camp à 5 heures. Il se fait que mon gentil porteur qui était devenu mon guide était le porteur, n'était plus le porteur. On a dû porter nos bonbonnes à deux.
Ah ouais, donc
on avait deux bonbonnes par personne, bonbonnes d'oxygène. Et c'est la coutume, on passe son eau au porteur qui doit faire chauffer l'eau parce que bon, il fait extrêmement froid. Mmh. On fait le check nourriture et le problème, c'est qu'il ne va pas changer l'eau. Donc après 3 heures d'ascension, je vais me rendre compte que mes bouteilles d'eau sont gelées.
Wow.
Je vais manger de la neige pour arriver au sommet et pour en redescendre et qu'il n'y aura pas de nourriture. Plus jamais, je ne ferai confiance. Plus jamais. Et voilà, comme dit mon mari, t'es parti la fleur au fusil. Oui, j'ai tendance à faire énormément confiance aux gens. Mais Cyril, j'ai bien fait de lui faire confiance toujours et je ferai toujours. Mais peut-être qu'un guide, apprenti guide, vaut mieux pas le faire.
C'est là que je retiens qu'elle fait vraiment du Koh Lanta en vrai, cette madame. Ça, c'est assez incroyable. Maud, j'ai des yeux ainsi ouverts grand comme ça. Cyril Rouane, de la saison 2019 de Koh Lanta. Vous avez 2 secondes devant vous, Cyril?
Bien sûr.
J'aimerais vous poser une petite question délicate qui fâche.
Ouh là là.
Dans un instant. Mais comme vous êtes français, vous.
Personne n'est parfait.
Non, je vous mets l'icône. Je vous mets du Johnny Hallyday, c'est votre icône, enfin, belgo-française. Comme ça, vous vous détendez 2 secondes. Et quand Johnny a terminé son Laura, boum, la question.
Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Tant à prendre de toi tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. J'ai poussé comme on respire, sans abri ni foi ni loi. Ce qui m'a fait vivre était en moi. Le temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Oh, oh, Laura, petit rien du tout, mais tant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas.
Vous m'avez gâché mon Laura avec vos histoires, Maud. Votre mari, il n'a pas la truc quand vous allez faire l'Everest et que vous êtes là, sans eau, sans truc, les jambes coupées.
Je crois qu'il prie le bon Dieu pour que je ne revienne jamais.
Non, sérieux, il doit flipper à mort.
Ouais, mais il sait que quand je rentrerai, j'aurai les yeux qui brillent et Voilà, qu'il aurait une mode de bonne humeur au moins pendant une semaine.
Ah, romantique. Alors, coupe ta musique, c'est la question qui fâche aux Français. Cyril était donc dans votre saison 2019 de Koh-Lanta. Vous avez fait plein de trucs ensemble. Vous allez en Papouasie dans pas longtemps. Monsieur Cyril.
Oui.
Au moment où vous faites Koh-Lanta, il se fait que vous vous retrouvez dans le même avion que Maud. Donc avant que l'émission ne démarre et qu'on vous voit et que soi-disant les aventuriers se rencontrent. Vous êtes dans le même avion que Maud. Vous faites une partie du trajet ensemble. Vous avez discuté, papoté, fait connaissance. Quand l'émission télé démarre, nous à la télé, on croit que vous vous connaissez pas. Mais en fait, avouez, vous vous connaissiez et vous aviez noué une alliance. Vrai ou pas vrai, le français ?
Je n'avouerai jamais. Non, il se trouve que oui, on a voyagé ensemble avec Maud, c'est pas non plus une surprise. Mais moi, je me suis dit qu'elle allait très vite partir de toute façon.
Salopard.
C'est laid.
J'ai dû lui promettre 80 000 euros si je gagnais, c'est pour ça qu'il m'a gardé.
Non, allez, en vrai, parce que je fais genre que j'annonce un scoop, mais vous en aviez déjà parlé. Mais vous aviez, je veux juste un oui ou un non. Est-ce que vous aviez noué une alliance ou vous avez juste papoté, comme on dit en belge ? Alliance ou papoté ?
On n'a pas noué d'alliance parce qu'on ne savait pas si on allait être dans la même équipe. On s'entendait bien, je l'appréciais, mais on est dans ces moments-là, on est dans des moments de stress où on jauge un peu les gens, donc on ne sait pas en fait. Ouais. On ne sait vraiment pas, c'est sur le jeu que vraiment les choses se font.
Je vais vous confier une petite mission, monsieur Cyril. Donc là, vous allez partir voir le peuple des arbres avec notre Maud. La Belgique tient beaucoup à cette madame. Alors le coup de l'Everest où elle a failli y passer une fois, je veux bien.
Laissé.
Mais vous veillez un peu sur elle. Non, mais vous veillez un peu sur elle, quand même.
Je serai toujours là pour Maud.
Et vous partez avec quoi ? Avec une grosse valise ou juste un sac à dos ? En Papouasie, la peuple des arbres, vous prenez une grosse valise, Maud ou...
Bien sûr, valise, porteur. Ben non, on est avec un sac à dos.
Ouais, donc vraiment léger, quoi. Deux tenues, une paire de chaussures et boum.
Quelque chose comme ça.
Ah ouais.
Et les participants également.
Non, mais c'est une vraie question. Quand on part en vacances classiques, on compte son nombre de slips et de t-shirts pour être sûr qu'on a assez. Vous partez combien de temps ?
Nous, on partira un peu plus longtemps. Les invités partiront 18 jours. Nous, on partira une semaine avant pour pouvoir préparer. Ce sera aussi, il y aura un côté ludique, il y aura un côté sportif, il y aura un côté survie, il y aura un côté social, découverte. Et donc, on va développer tout ça. Et toute personne qui a envie de vivre de l'aventure sera la bienvenue. On n'est pas obligé d'être un baroudeur avec une expérience de fou. Le but, c'est vraiment
regarder nous. Franchement, je suis pas baroudeur et j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de partager ça avec Maud et avec les autres participants. Ça va être une super expérience.
Non, mais vous êtes deux petits modestes, les gars. Je vous aime bien. Vous êtes deux petits modestes. Merci.
Deux petits décalés,
oui.
Surtout.
Merci les décalés. Merci, monsieur Cyril. À la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.
Salut, Cyril.
Il mériterait d'être dans le journal. Reviens dans quelques instants sur Bell RTL.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love, but look at all the love we made. I'm all out of life. Oh babe, it's killing me to say I'm all out of love, I'm all out of life, I'm all out of fight. We were two broken parts from the same old junkyard. Battered and bruised and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, cause we held through the pain. And when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So come here close for the last time. Put your heart on my. But look at all the love.
But it shouldn't be this hard. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. Oh,
I'm all out of fight.
My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made.
I'm all out of life.
Oh, babe, it's killing.
Tous les jours, l'équipe de la rédaction de Bel RTL vous informe.
Pour savoir ce qu'il se passe à tout moment,
écoutez nos rendez-vous avec l'info.
Dans le Bel RTL matin dès 5h.
À 12h30 pour le Bel RTL midi.
Et le Bel RTL soir à 18h.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité livrée heure par heure.
Et minute par minute.
C'est avec l'équipe de la rédaction.
Bel RTL, on est là pour vous informer. Il mériterait d'être dans le journal.
Mais quelle est la bonne photo pour illustrer son parcours ? Maud de Koh-Lanta, ça fait des heures que je dis ça, mais c'est quoi votre vrai nom de famille en fait, Maud ?
Bams Michot.
Ouais, c'est le nom, votre nom et le nom de monsieur alors.
Voilà, parce que ce sont comme mes enfants qui m'ont inscrite et c'était évident qu'il fallait qu'ils aient le nom Bams et Michot, et j'aurais presque envie d'ajouter Herpicom parce que c'est le nom de ma maman qui nous a éduqués seuls. On était 4 filles et elle est formidable.
Ah, tout est dans l'hommage, pas mal. Quelle est la bonne photo à choisir ? Pas une photo familiale, mais une photo de vous dans un univers scout. C'est un truc qui vous tient vraiment très très à cœur. Vous venez de cet univers-là, vous étiez quoi ? Dans une unité de guide de scout de Louveteaux, vous étiez où ?
J'étais à la 77e Capellevelde.
C'est où ?
C'est une unité guide qui était à Oulu et Saint-Lambert, puisque j'habitais à Kreinem par le passé. Et là, ça a été la révélation de ma vie. Les valeurs du scoutisme, c'est extraordinaire. J'ai encore, évidemment, des contacts. Nous sommes partis dans le désert, randonnée dans le désert, avec ma chef guide de l'époque, mon amie de toujours, enfin, toutes sont des amies, et Guépard, qui était dans ma patrouille. Donc voilà, je les appelle encore par leur totem maintenant. Salut à toutes.
Et vous êtes restées là jusqu'à quand ? Vous avez encore fait des camps après ?
Oui.
Vous êtes restées jusqu'à quel âge ?
Oh, j'ai arrêté à mon avis vers 24 ans, mais j'ai exigé avant d'épouser Jean-Luc, mon mahume,
hein,
qui vive un camp scout parce que c'était essentiel pour moi qu'il connaisse les vraies valeurs. Et il a été totémisé, il a été cuistot et totémisé.
Ah, pas mal.
Et ça, c'était en 94, puisque nous sommes mariés en 95.
Eh ben, alors attention, comparaison des totems. Donc votre totem, c'est quoi? Et lui, c'est quoi alors du coup?
Alors mon totem, c'est de nouveau quelque chose, hein, c'est Speedy. Speedy, c'est un petit cheval blanc, c'est pas la souris.
Ouais.
Maintenant, on ne veut plus le donner parce que justement, c'était un cheval blanc qu'on voyait dans un film. Mais je m'identifierais à Spirit aussi dans un film qui est peut-être un peu plus connu dans le cinéma. Et mon mari, c'est Cougar.
Cougar ?
Oui.
Ah, vous avez le même âge ou pas ?
Lui a 2 ans de plus que moi.
Ah ouais, donc comme ça on découvre un peu la famille, j'ai noté Mahoum, c'est comme ça son petit...
c'est Cougar, on va dire.
Ah ouais.
On a failli l'appeler Manul, parce que c'est aussi un félin, mais non,
oui,
voilà.
Il y a plein de surnoms ce gars, Jean-Luc, Mahoum, Cougar, bientôt ma feuille va être trop petite.
Ouais, alors... mais mes enfants sont aussi chez les scouts, hein, c'était obligé, hein. Il y a Jabirou et Aigrette. Voilà.
Ah ok, comme ça on a toute la famille. Alors tout à l'heure on a appelé Cyril, ça c'est votre copain d'aventure, on appelle maintenant une autre légende de Koh-Lanta. Attention, monsieur, dame, levez-vous, je me lève. Mesdames et messieurs, sur Bel RTL, Théoura. Bonjour, Théoura.
Yolana, bonjour. Salut, Maud.
Salut, Théoura, tu vas bien ?
Ça va.
Donnez le chiffre, Théoura. Vous en avez fait combien, vous, des Koh-Lanta ?
5.
Et votre Maud, 1, mais 1 gagné. Donc ça vaut...
Ben voilà, il faut laisser la place aux autres après.
Ça vaut comme 5. Théoura, ben, vous voilà en fait dans Les Traîtres, qui démarre cette semaine sur RTL TVI.
Exactement.
Par rapport à Koh-Lanta, et je vous le dis d'autant plus que je l'ai fait un peu la saison dernière, Les Traîtres, par rapport à Koh-Lanta, niveau physique, c'est un peu de la gnognotte, vous êtes à l'aise, non?
C'est totalement différent. Là, il y a vraiment, c'est purement stratégique, quoi. Il y a 90% de stratégie ici, dans Les Traîtres. Mais je me suis bien régalé.
Allez, ouais. Racontez pas la fin pour savoir si, si. Alors, comparons les vies. Donc, Maude, elle vit en Belgique. Vous, Théoura, vous vivez où pendant
dans
l'année?
Dans le sud de la France.
Vous êtes dans le sud de la France. Maude, quand elle a rien à faire, elle va gravir, elle va faire de l'alpinisme sur les plus hauts sommets, elle va faire le GR20, elle est dans le désert, elle s'embête, elle va en Papouasie dans des tribus. Vous, vous continuez à faire des voyages qui sont aussi forts que des Koh Lanta dans votre vie perso?
Avec Maude, c'est une machine. Mais moi, quand j'ai rien à faire, je prends ma petite pirogue polynésienne et je me fais quelques kilomètres. Je fais pas autant de voyages que j'aimerais, hein, mais voilà. Mais déjà, une fois par an, j'arrive à retourner en Polynésie et ça me va très très bien déjà.
Je signe pour le voyage, Théoura.
Vous avez pas encore fait, Maude, la Polynésie?
Non, j'ai avec Théoura.
Ah, bah attendez. Ah,
ça, c'est un aventurier.
Écoutez, ça, c'est quasi une demande en mariage. Donc, on marque une pause.
Non, c'est ma hume.
Et dans un instant, Théoura, vous nous direz si vous l'invitez à vos frais, tout frais payé, voilà, pendant 15 jours en Polynésie. Réponse après la pub. À tout de suite.
Jusqu'à 10h.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
J'avais perdu l'habitude des clés de la solitude. J'avais perdu la mer et les déserts arides, même la chaleur des pullovers. J'avais perdu l'enfer au paradis. J'avais oublié les refrains qui nous rappellent à l'homme et ton foutu désordre, ce désordre est mais si confidentiel, l'existence et les roses se fanent, même à lundi. Au paradis, personne ne te remplace, non, personne. Ton amour ne te remplace, non. C'est un enfer à vivre, mais comment vivre avec mes envies insensées? Car ton armoire est vide, mes rêves me dévorent et mes draps sont glacés. Toutes les nuits, on n'a plus goût à rien, mais tant besoin de tout. Ce qui pourrait remplacer un être indélébile, on cherche en vain le double. On serait prêt à tout pour revoir le jour. Ne te remplace, non, personne. Ne te remplace, non, personne. Ne te remplace, non.
mériterait d'être dans le journal.
Mais va-t-elle encore devoir faire sa valise ? Maud de Koh-Lanta. Nous sommes en ligne avec Théoura. Cet homme a fait 5 fois Koh-Lanta. Et vous lui proposez maintenant l'aventure ultime. Théoura ?
Oui.
Acceptez-vous de l'inviter à vos frais pendant 15 jours en Polynésie ?
Alors, je peux l'inviter.
Le gars, il dit pas oui. Il fait d'abord une phrase.
Ouais. Mais en effet, ça sera une deuxième discussion. Peut-être en partenariat avec RTL.
Ah, voilà. Avec Benjamin et Alison. Voilà, qui viendra avec nous.
Je fais une parenthèse pour Alison, notre production. Tu sais que c'est des gratteurs, hein. Tout à l'heure, elle a demandé de l'argent pour escalader. Lui, il veut de l'argent pour aller en Polynésie. Mais nous, on n'est pas RTL France, les gars. On est bel RTL Belgique. C'est en centimes qu'on compte ici.
On va demander à Denis.
Surtout qu'en Polynésie, il y a de belles rando à faire aussi également.
J'en suis sûr.
Ouais, en plus, vous allez bientôt faire le GR20 de vous. Donc, en matière de rando, mot est servi. Théoura, deux petites secondes encore. En vrai, qu'est-ce que ça vous a apporté, Koh-Lanta? Et ma question, évidemment à la belle partie de Koh-Lanta, où il y a eu tout cet engouement autour de vous êtes devenu un peu l'icône, puis à la version un petit peu plus noire et les polémiques. Au final, si on fait le tri, qu'est-ce que ça vous a apporté, Koh-Lanta?
Ça m'a mûri déjà dans ma première saison. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes limites physiques. C'est surtout cette notoriété qui a l'avantage de faire vivre un peu mon business, j'ai envie de dire.
C'est quoi votre business, du coup? C'est quoi votre business? Parce que Maud, elle est dans l'imagerie médicale, mais vous, votre vie à côté, c'est quoi?
Je tiens un food truck et je sers des plats polynésiens.
Génial, mais dans quelle ville?
Du côté de Béziers, notamment.
T'es bourrin, un food truck du côté de Béziers. Ouais. Et vous savez qu'il y a plein de Belges qui vont dans ce coin-là l'été, hein?
Et j'ai beaucoup de clientèle belge, notamment, qui viennent. Et souvent, ils viennent avec un peu de chocolat belge et ça me va très bien, ils peuvent continuer comme ça.
Pas mal. Mais donc, vous le verrez peut-être à Béziers avant, alors Maud, du coup...
C'est avec grand plaisir de vous recevoir tous.
Ou à la télévision, mercredi soir, dans Les Traîtres, nouveau départ sur RTL TVI. Merci Théoura, très bonne journée à vous.
Merci Benjamin.
Et je te salue Théoura, merci pour ton honnêteté jusqu'au bout, même dans les moments difficiles. Je respecte jusqu'au bout tout ce que tu as fait.
Merci, bonne journée.
Et je crois que ça c'est un message subliminal eu égard aux polémiques de l'autre fois, de l'autre jour.
Exactement.
Qu'elle l'a bien placé.
Il mériterait d'être dans le journal.
Je suis sur mon postérieur pour le dire en français. Donc Maud, elle fait de l'alpinisme et de l'escalade. Comme vous, vous allez faire vos courses au supermarché. Et Théoura, il a un food truck à Béziers. Tu savais, Alison?
Ouais, je savais.
Ah, tu savais?
J'adore Théoura, donc.
Ah, ok. Hashtag groupie. Bon alors, nous allons maintenant choisir le titre d'article qui résume votre parcours. Maud, titre d'article qui sera peut-être le titre choisi pour un article dans les journaux Sud-Info ce week-end. Alison est votre conseillère média. Elle n'est pas que followeuse de Théoura sur les réseaux sociaux. Elle peut aussi vous conseiller. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai en stock la femme qui flirte trop avec les limites. Parce que vous prenez quand même un peu de risque, hein. J'ai en stock... Attendez, une autre conseillère média arrive. Sandrine Corman, bonjour. Installe-toi, c'est un moment stratégique. C'est l'équivalent de l'épreuve des poteaux à Koh-Lanta.
En tout cas, j'écoutais dans la voiture, j'étais impressionnée.
C'est des rêves, on a chacun ses rêves.
On vous félicite 5 ans plus tard pour Koh-Lanta, mais le cœur y était. Donc j'ai soit la femme qui flirte trop avec les limites, j'ai la femme qui s'embête dans son travail, et j'ai le mari de Maud prend beaucoup sur lui.
La première.
Alison, elle dit la femme qui flirte trop avec les limites.
Ouais.
Sandrine, vous dites quoi, vous?
Ouais, plutôt la première. Après, est-ce que c'est
trop,
mal de flirter trop?
Non, mais c'est avec les limites. C'est pas est-ce que c'est mal de flirter trop. C'est flirter trop avec les limites.
Mais j'avais compris.
Mais non, mais c'est parce que.
Mais ça résume bien Maud, je trouve.
Ouais? Maud, vous prenez quoi? Vous prenez ça?
En enlevant le trop, oui, mais je respecte le nom, effectivement, la femme qui flirte. Quoique la dernière, elle est pas mal aussi.
Ouais, c'est vrai.
Le mari de Maud prend sur lui?
Non, parce que je pense qu'il est content de me voir partir, donc ça c'est pas mal. Il prend sur lui quand je suis à la maison.
D'habitude, je dis que c'est l'invité qui mérite d'être dans le journal, mais donc ce matin, pour conclure, je dis que votre mari mérite vraiment d'être dans le journal.
Exactement.
Et accessoirement, bon amusement en Papouasie. Merci Maud.
Merci beaucoup.
Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est
coule et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter le chant. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. C'est le prix de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elles fredonnent dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter.